finalement comme un schéma, l'intelligence, le cœur et la raison, le cœur qui fait la synthèse de l'ensemble de ce qui est humain en nous, et c'est avec le cœur que nous sommes intelligents. Avec la raison, nous sommes simplement des raisonneurs. Il n'y a pas d'intelligence. C'est une manière un peu de parler. Je fais une distinction entre la raison et l'intelligence. Vous voyez bien. Hein? Voilà. Alors, nous arrivons à la deuxième partie. La deuxième partie évangélique avec le chapitre 10 de l'évangile de saint Marc à partir du verset 17. Et vous avez un petit schéma, je dirais, pour montrer la dynamique de ce récit. Je vais le raconter. Un homme arrive, il accourt auprès de Jésus. Jésus qui partait vers Jérusalem. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Visiblement, c'est un homme qui en veut. Je dirais familièrement une grosse cylindrée spirituelle. Et Jésus, apparemment, n'a pas l'air d'être très ému par de voir cette grosse voiture, n'est-ce pas, qui court, qui arrête Jésus au milieu, qui lui bloque le passage. Voilà. Et Jésus lui dit, ben, respecte les commandements. Et puis, ben, il les a pratiqués dès la jeunesse. Alors Jésus le regarde. Alors on sent que cet homme qui accourt comme ça et qui demande à Jésus « Que dois-je faire ?» c'est que malgré toutes ses pratiques, tous ses efforts, toutes ses dévotions peut-être, il n'est pas encore en paix, il n'est pas tranquille, il en cherche un peu plus encore. Il y a une inquiétude sans doute chez lui. Et Jésus le regarde. Et il l'aime. Vous voyez la place du cœur. Hein? Lui, il était sans doute dans sa tête, dans un programme de dire « Attention, il faut que j'en fasse beaucoup. » Et Jésus le regarde et il l'aime. Et il lui dit alors une chose. À couper le souffle, ce que tu as, une chose te manque, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. Vends-le. Mais lui, il avait de grands biens et il s'en alla tout triste. Quels sont ses grands biens? Est-ce qu'il a une fortune personnelle importante? C'est possible, mais l'Évangile ne le dit pas. Donc, n'allons pas imaginer quoi que ce soit. Il a une fortune. Et ça, l'Évangile nous le dit. Quelle est sa fortune? Eh bien, sa fortune, c'est d'avoir fait des efforts depuis sa jeunesse. Il a été fidèle, il a été à la synagogue, il a tout fait, il a respecté les commandements. Et... Tout bien fait, là. Et curieusement, ça ne l'a pas mis en paix. Il en veut un peu plus encore. L'histoire nous dit que cet homme est parti. Voilà. C'est la première colonne du schéma. Voilà. Alors les disciples, Jésus fait un petit commentaire, une fois que l'homme est parti, il dit « Qu'est-ce que ce sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux ?» Difficile, difficile. Et puis finalement, il dit « Pour les hommes, c'est impossible. Mais tout est possible à Dieu. Pour les hommes, c'est impossible. Voilà. Nos efforts humains, si j'entends bien, même énormes, ne peuvent pas y arriver. Alors les apôtres, les disciples qui sont autour de Jésus, ils sont absolument étonnés. Ça, c'est les deux colonnes, les deux petits carrés suivants. Les disciples qui sont absolument étonnés et qui disent à Jésus, mais qui peut être sauvé? Et puis Pierre qui aussitôt dit à Jésus, ben nous, on a tout quitté. Alors qu'est-ce qu'il y aura pour nous? Est-ce qu'il y aura quand même un salaire, une récompense, quelque chose? L'inquiétude des apôtres. Et Jésus leur répond, ben, ceux qui auront quitté père, mère, enfant, maison, champ, recevront le centuple en cette vie, avec des persécutions, et la vie éternelle dans l'autre vie. Voilà. Et ici, saint Marc introduit la troisième, le pavé central, l'annonce de la passion et de la résurrection. Qui est-ce qui va nous faire entrer dans le royaume, avoir la récompense? Ce n'est pas le muscle humain, c'est le mystère de la passion et de la résurrection. C'est lui qui va faire cela. Autrement dit, c'est gratuit. Mais les disciples et les apôtres sont encore dans leur truc de la récompense. Et voilà que Jacques et Jean arrivent et ils disent à Jésus, nous voulons que tu fasses ce que nous allons te demander. Nous voulons que tu fasses ce que nous allons demander. Le premier demandait, que dois-je faire? Là, Jacques et Jean, ils donnent des ordres à Jésus. C'est pas mal. Voilà. La première est à droite et à gauche de toi dans ton royaume, c'est pas mal. Ça nous irait bien. Alors Jésus doucement les remet en place en disant, ben, oui, mais ces places, c'est pas moi qui les donne. Ah bon? T'as pas de pouvoir alors? Et puis les 10 autres qui ont entendu, ils se disent, oulala, c'est pas le moment de perdre notre temps, il y en a deux qui demandent des places, il faudrait pas qu'on perde notre fil, hein, notre tour. Et ils râlent contre les deux. Ça se comprend, hein. Et Jésus leur dit, le Fils de l'homme est venu pour servir et non pas pour prendre le pouvoir. Il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et Jésus continue sa marche vers Jérusalem. Il arrive à Jéricho et il traverse Jéricho avec une foule immense qui le suit. Et là, nous avons le dernier pavé, celui avec Bartimée. Bartimée, lui, eh ben, il est au bord de la route, on pourrait dire pour une part dans le fossé. Et pour la foule qui marche au milieu, il compte pas, on lui dit, écarte-toi, c'est le maître qui passe, tu comptes pas trop. Tiens, on avait une grosse cylindrée au début du récit, on a un homme qui est dans le fossé pour la suite. Tiens, c'est un contrepoint. Et puis si on regarde le récit de Bartimée, on va constater qu'il est construit complètement en contrepoint du premier. L'homme qui a couru n'a pas de nom. Eh bien, Bartimée, il a un nom. L'homme courait au milieu de la route. Bartimée est arrêté. Dans le fossé, on pourrait dire. Et ça va continuer comme ça. Et Bartimée, quand il apprend que c'est Jésus qui passe, il se met à crier, « Jésus, au secours !» Les hommes veulent le faire taire, et lui, il crie de plus belle, « Fils de David, viens à mon secours !» Jésus s'arrête et dit à la foule, « Appelez-le !» La foule se retourne, elle qui lui disait, « Tais-toi !» Courage, il t'appelle, vénard. Et quand il est appelé, voilà que Bartimée rejette son manteau et se met à courir vers Jésus. Ben, il est aveugle. Il faudrait qu'on le prenne par la main. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et Jésus l'accueille et que lui dit-il? « Que veux-tu que je fasse pour toi ? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui pose « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Complètement l'inverse. Et Bartimée dit ben, « Seigneur, que je vois !» Et Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé, va en paix !» Et la conclusion, oh, comme elle est toute simple, elle fait du bien. Et il cheminait à sa suite. Et il cheminait à sa suite. Qu'est-ce que Jésus avait dit à l'homme qui marchait là, qui roulait sur une, avec une grosse voiture? Vends ce que tu as. Il achetait son manteau. Donne-le aux pauvres. Et puis viens et suis-moi. Et la conclusion, et il marchait à sa suite. Et le gros moteur, là, il était parti tout triste, car il avait le grand bien. Et vous voyez comment on peut imaginer que le premier récit traverse le mystère de la passion centrale et on retrouve un autre, c'est peut-être le même, homme qui va découvrir tout à fait autre chose. Parce qu'il aura traversé le mystère de la passion. C'est Jésus qui a fait ça pour lui. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors on peut se dire, oh ben moi, je vais me dispenser d'être cette grosse voiture qui marche sur la route pour tout de suite être du côté de Bartimée et crier au secours, Seigneur, Seigneur. Faut pas se moquer de cette grosse voiture qui a mis la gomme de tous ses efforts. Parce que s'il n'avait pas fait tous ses efforts au départ, il ne serait pas venu voir Jésus. Et il n'y aurait pas eu d'histoire du tout. Combien pour nos enfants aujourd'hui, nous hésitons, je dirais, à leur dire « fais des efforts ». Parce que on se dit, oh, mais ça les contraint, ils ne seront pas libres. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et nous aurions envie de passer directement à la deuxième partie. Mais il n'y a pas de deuxième partie si nous n'avons pas expérimenté quelque chose de la première partie. Il faut que pour une part, nous ayons pu sentir que tous nos efforts n'aboutiront pas. Et que j'ai besoin de l'aide du cœur de Jésus pour me tirer de mes affaires. Si j'ai pas fait cette première expérience, la deuxième ne peut pas se passer. Et ça, on peut dire, c'est le cœur de Jésus, le cœur de la passion, le cœur de son mystère, je dirais, qui me fait faire ce passage. Bartimée, l'aveugle au bord de la route, c'est un homme qui va découvrir son cœur avec le cœur de Jésus et il va pouvoir marcher avec lui. Voilà. Eh bien, j'ai traversé tout ça. C'était un tout petit peu plus long que prévu, mais vous voyez qu'il y a bien des choses à dire. Nous pouvons prendre... Non, la prière d'offrande, c'est après, hein, c'est à la fin. Oui. Alors, le temps personnel. Vous avez, de l'autre côté de la prière d'offrande, vous avez une question pour le temps personnel. Dans ma vie professionnelle, familiale, amicale, quelle est la place? Quelle place est-ce que je donne à la tête, c'est-à-dire à la raison, aux arguments, et quelle place je donne au cœur? Et peut-être que selon les endroits et les moments où je suis, eh bien, je ne suis pas tout à fait le même. Alors, ce temps est un temps personnel, je dirais un peu de rumination, pour que vous puissiez un petit peu, à l'intérieur de vous-même, sentir quelle est la place de votre cœur dans votre vie. On va prendre 5 minutes pour cela. Et puis ensuite, il y aura une bonne dizaine de minutes pour échanger en petits groupes. Alors, on échangera pas en petits groupes sur la question personnelle, mais on échangera en petits groupes autour de la question « À quoi est-ce que j'ai été sensible ? Qu'est-ce qui m'a interpellé dans cet enseignement ?» Voilà. Et peut-être que les uns et les autres, tiens, ben moi j'ai retenu ceci, ah moi j'ai été sensible à telle chose. Et donc ça pourra enrichir, et en fonction de ce que les petits groupes vont dire, eh bien ça peut faire émerger des questions pour un temps de questions que vous pourrez poser. Ce sera les 20 dernières minutes de notre soirée. Voilà. Donc, je vous invite maintenant à prendre un petit temps personnel, le Père Laurent va mettre un petit peu de musique pour nous aider à faire silence et puis simplement que nous puissions nous poser la question « Tiens, mon cœur !» Et peut-être aussi « Est-ce qu'il y a de la place dans mon cœur pour le cœur de Jésus ?» Nous allons maintenant avoir le temps pour les petits groupes. Donc vous pouvez éventuellement vous écarter sur les bas-côtés de l'église si vous voulez avoir plus de tranquillité pour parler. Donc c'est plus une sorte d'écho de ce que vous avez entendu dans l'enseignement qui vous a rejoint. Et puis pendant ce temps-là aussi, vous pouvez écrire des questions que vous aimeriez poser, d'éclaircissement, de prolongation. Voilà. Et puis, il y a des gens qui passeront pour récupérer et trier les questions pendant ce temps-là pour qu'elles puissent me remonter. Vous avez une dizaine de minutes. Voilà. Alors, je vais être obligé de sélectionner les questions. Je ne pourrai pas, bien sûr... répondre à toutes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 papiers qui me sont revenus pour l'instant. Je vais d'abord en prendre une. De quelle façon pouvons-nous répondre à ce monde, nous, chrétiens? Eh bien, je dirais, en essayant... Il ne s'agit pas d'abord d'une réponse, mais comment vivre dans ce monde qui, de fait, aujourd'hui, semble être de plus en plus non chrétien et tendrait à vouloir mettre toute expression chrétienne sur le bord, voire l'interdire. pour que l'expression chrétienne ne dérange pas ce monde qui s'organise selon ses principes. Comment est-ce que nous pouvons répondre ou être présents à ce monde? En lisant Dilexitnos, j'ai bien senti que le pape avait des choses à dire à ce monde. Et en même temps, j'ai été relativement étonné d'entendre qu'il ne faisait pas de critique. Il pointe des choses et il développe la joie qu'il a de sentir combien des gens ont un cœur et combien accueillir le cœur de Jésus dans la vie, ça crée du bonheur. Voilà. Donc la réponse, il ne s'agit pas d'entrer dans une sorte de « on va retoquer, rétorquer à quelqu'un d'autre pour essayer de trouver des arguments qui seraient meilleurs que les siens ». Non. Si effectivement la joie de Jésus nous irrigue, eh bien c'est cette joie-là qui leur fera du bien à eux. On touche là au mystère de « nous sommes envoyés en mission dans un monde qui n'est pas chrétien ». Oui. Et cette mission, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle est une grande aventure pour nous. C'est un grand défi.
Oui.
Alors, des questions qui sont plus du côté comment passer de la tête au cœur, ou bien comment passer de la raison au cœur pour pouvoir ouvrir la porte à Jésus. Il y aurait une autre question qui se rapproche un peu. Si la richesse du jeune homme riche, c'est la somme des efforts qu'il a accomplis depuis l'enfance, comment peut-il les vendre et les distribuer aux pauvres? Eh bien, à ces deux questions, je dirais, comment pouvons-nous réussir à faire ce passage? Eh bien, le mot qui me vient, c'est par l'échec. Par l'échec. Nous n'y arrivons pas. Et cet échec, je dirais qu'il peut nous affecter beaucoup, si nous le présentons à Dieu, alors lui fait son œuvre. Je ressens que je ne peux pas y arriver. L'homme riche qui arrive là, tout bardé de ses diplômes et des efforts qu'il a pu faire, il est comme cassé par la parole de Jésus. Et il peut s'en aller en disant qu'il est complètement fou. Il a perdu la tête. Et peut-être que la manière dont Jésus l'a regardé et l'a aimé, peut-être que c'est venu le toucher secrètement pour ouvrir quelque chose en lui. Mais il partit tout triste. Et je crois que ce passage par la tristesse, par le découragement, j'y arrive pas. Viens, Seigneur. Les deux ensemble. Voilà. Si je pars simplement découragé, eh ben, je m'enfonce dans mon découragement. Mais si, je dirais, cette impossibilité ressentie, par exemple, de pardonner, Seigneur, viens. Je peux pas pardonner, c'est pas possible. Viens transformer mon cœur à moi. Viens y faire quelque chose. Peut-être quelque chose pourra s'ouvrir à cet endroit-là. Mais c'est le mystère de la passion et de la résurrection qui ouvre la porte. C'est pas moi qui vais réussir à faire quelque chose. Si c'est moi qui devais réussir à faire quelque chose, eh ben j'aurais pas besoin de la passion et de la résurrection de Jésus. Un bon conseil, mauvais suffit. Ah oui, tu me donnes un conseil et puis je vais le faire. Hein. Eh ben non. C'est plus mystérieux que ça. C'est plus grand et c'est plus beau que cela. C'est lui qui est venu à mon secours. Pouvez-vous revenir sur la différence entre la raison, le cœur, les émotions, l'affectivité, les ressentis, pour mieux comprendre ce qui est du domaine de notre humanité, ce qui relève de Dieu? Ben, si on pouvait faire le partage comme ça entre ce qui relève de notre humanité et ce qui relève de Dieu, nous serions un peu en morceaux. Dieu nous a créés, nous a pétris, et donc notre humanité est pétrie de Dieu. Nous le croyons. Le fait de croire change quelque chose en nous. Croire, finalement, c'est une décision. C'est une décision de laisser de la place à Dieu. Alors, la raison, voilà. On demande la différence entre la raison et le cœur. Je sais pas quoi dire, moi. Je sais pas bien quoi dire. Y aurait-il dans notre cœur des émotions dont on pourrait dire celles-là, elles sont purement de Dieu? Je penserais pour ma part que pour les grandes décisions, si nous sentons que quelque chose vient de Dieu et nous a touché au niveau du cœur, c'est bien d'en parler à quelqu'un dans l'Église pour qu'il puisse nous confirmer dans une relation avec quelqu'un qui pourra me dire: ah, j'entends quelque chose qui me réjouit dans ce que tu dis. Ou bien, j'entends quelque chose, je résiste un peu. Il faudrait que tu m'éclaires un peu sur ce que tu veux dire. Pour que, dans un compagnonnage, dans une relation avec quelqu'un d'autre, les choses puissent s'éclairer. C'est toujours dans une relation. Alors ça rejoint une question. Pourquoi notre identité se construit-elle avec les autres? J'ai envie de dire, je ne dis pas pourquoi, mais je constate que c'est comme cela. Dans ma vie, il y a quelque chose qui a été très important. dans un camp, j'avais un avis très, très négatif sur moi-même en disant, de toute façon, je suis nul, moi. Et un jour, une fille qui était à côté de moi m'a engueulé d'une façon incroyable. Mais arrête de dire ça. Tu ne sais pas ce que tu nous apportes. Tu ne sais pas ce que tu nous apportes. Et c'est venu me percuter. Je me suis dit, tiens, peut-être que j'ai apporté quelque chose et je ne sais pas quoi. Et du coup, je ferais bien de remballer cette certitude qui me paraissait être une évidence pour dire, ben, je vais arrêter de dire ça. Oh, j'ai mis 10 ans avant d'arrêter. Hein. Mais cette fille, le jour où elle m'a dit ça, vous voyez, ça fait 60 ans que je l'ai entendu, je m'en souviens encore, comme quelque chose qui m'a construit, qui m'a fait du bien. Et je crois que nous nous donnons la vie les uns à travers les autres. Lorsque nous avons le courage, je dirais, de résister un bon coup. Et pas simplement, je dirais, de nous dire des choses gentilles pour mettre de la pommade, quoi. C'est pas pour ça qu'il faut être brutal, hein. Non, non. Dans quelle mesure et comment le mystère pascal est-il pour nous le moyen de rassembler les fragments de notre propre histoire? Alors, j'ai un petit peu de mal à comprendre la question. Je la comprends de cette manière. J'avais prévu. Comment, au fond, le mystère pascal peut être le lieu où nous pouvons entrer profondément dans la compréhension de notre propre histoire. Si le Christ s'est incarné, qu'il a pris notre humanité et qu'il l'a vécu d'une façon dans le don de lui-même, dans l'ouverture, comme jamais aucun homme n'a été ouvert, alors c'est lui, je dirais, qui nous apprend qu'est-ce que c'est être un homme et une femme. Véritable. Un homme, une femme, en relation avec le Créateur, à la fois qui nous crée, et le Créateur, j'ai dit ça la dernière fois, qui nous dit, faisons l'homme. Le Créateur est intéressé à voir ce que l'homme va faire avec le matériau que Dieu lui donne, qu'est-ce que l'homme va inventer? Pourquoi le mystère pascal et non pas simplement le mystère de l'incarnation? Parce que le mystère pascal dit jusqu'où le Christ est allé en donnant sa vie. L'Eucharistie dit quelque chose de cela. Et je pourrais dire, si je prends un seul mot, c'est son cœur qui résume tout l'évangile et toute la vie du Christ. Son cœur me révèle à moi quel peut être le sens de mon histoire. J'ai eu l'occasion, je dirais, de dire pour des gens qui sont blessés ou des gens qui travaillent avec des gens blessés. Voilà mon cœur blessé. Qui peut me comprendre? Qui va me rendre un cœur qui soit vraiment vivant? Le cœur blessé de Jésus. Si je le laisse entrer et visiter mes blessures, il fera de nos deux cœurs blessés un cœur vivant. Le sien et le mien. Bien sûr, ça demande d'entrer dans une compréhension complètement inédite, qui n'est pas simplement humaine, où je vais demander un remboursement, des compensations, de la justice. Le Christ nous emmène au-delà de ça. Et donc, comment est-ce que nous pouvons comprendre nos vies dans le mystère pascal? Voilà. Pour moi, le cœur de Jésus nous aide non seulement à comprendre, qui serait comprendre avec la tête, mais nous aide à repartir sur la route avec un cœur vivant. Est-ce que la relation du cœur passe d'abord par une relation de raison? Est-ce le cheminement ordinaire? Je ne sais pas bien répondre à cette question. Je ne suis pas sûr que pour les enfants, le premier réflexe ce soit de passer par la raison. Spontanément, ils ont une intelligence du cœur. Ils découvrent le sens des mots avec leur cœur. Ils comprennent avec leur cœur. Ensuite, ils vont apprendre le langage et les mots. Oui. Je me fais l'avocat du diable. N'y a-t-il pas une forme d'injustice dans le traitement entre le jeune homme riche et l'aveugle Bartimée, dans le dépouillement et la disponibilité à suivre Jésus? Entre parenthèses, je peux développer à l'oral. N'y a-t-il pas une forme d'injustice? Alors, je dirais, apparemment, oui. C'est-à-dire, le Christ accueille Bartimée et a l'air de repousser l'homme riche, qui peut-être effectivement pouvait être un petit peu fier de lui quand même, des efforts qu'il avait faits. Et on le comprend, n'est-ce pas, qu'il puisse sentir que il a bien travaillé et qu'il aurait attendu de la part de Jésus un petit peu de félicitations. C'est humain. Voilà. Et parfois, nous pouvons peut-être nous-mêmes ressentir quelque chose de cet ordre-là, en disant, bah, dis donc, je me suis investi, j'ai mouillé ma chemise, j'ai fait des efforts, et puis j'ai pas de récompense. J'ai l'impression que le Christ, il me boude. Qu'est-ce qu'il a? Il nous fait passer par des chemins mystérieux. Oui. Alors, lorsque Jésus demande à cet homme de vendre ce qu'il a, comme c'est un bon chrétien, peut-être ignatien, il fait son examen de conscience le soir. Et le soir, il se dit, « Oh ben dis donc, aujourd'hui j'ai reçu une claque, quelque chose. » Et c'était en public encore. Je suis complètement par terre. Mon trésor, ma réputation, par terre. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il m'a demandé? Donne-le au pauvre, puis viens chez moi. Mais bon sang, je suis pauvre là. J'ai plus rien. Je suis nu comme un ver. Tiens, c'est curieux, je suis pauvre. Il y a quelque chose qui s'est réalisé. Voilà. Alors l'Évangile ne dit pas ça, mais l'Évangile nous propose Bartimée. Et j'ai dit, un peu pour m'amuser, il est dans le fossé. C'est-à-dire, l'homme riche, après avoir entendu Jésus, il est dans le fossé. Toute sa construction, tous ses efforts, tout ce qu'il a fait, ça ne lui sert plus à rien. Vous voyez, tout à l'heure je disais qu'il faut passer par l'échec. Mon Dieu, comme c'est redoutable. Je vois que l'heure avance, j'ai l'impression que ce serait bien. Je vous propose de prendre la prière d'offrande avec l'intention du mois de décembre.
Si la reste, parmi la reste, si vous en voulez, le bonjour pour nous, et bien, comme la dernière fois, il y a de l'amitié qui est servie, la prochaine rencontre du cadre de ce parcours, enfin, je vous remercie de la régence, c'est le 15 janvier, et après le 12 février. Puis s'il y a des petites rates aussi, on pourra leur donner à la suite.
Pour vous mettre en appétit, le 15 janvier, nous avons vu quelque chose, accueillir le cœur de Jésus dans mon cœur. Le 15 janvier, ce sera le mouvement réciproque, mon cœur dans le cœur de Jésus, et plus largement, mon cœur dans le cœur de la Trinité. C'est-à-dire un mouvement, je dirais, si nous accueillons dans notre cœur, alors le Christ m'a fait découvrir son cœur et le cœur de la Trinité.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Thank you.